R
F I.
C'est pas du vent. Le magazine de l'environnement sur RFI. Anne-Cécile Brun.
Bonjour, à l'approche de Noël, c'est la frénésie. Que va-t-on offrir aux petits ? Et mamie, on lui a offert quoi l'année dernière ? Le sapin, on le prend grand ou moyen ? Et pour le repas, on fait quoi ? Et quand on a conscience, comme vous, auditeurs de C'est pas du vent, de la dégradation vertigineuse de notre environnement, eh bien répondre à ces questions devient un vrai casse-tête. Et nous sommes nombreux à nous interroger. Le hashtag Green Santa est en plein boom sur les réseaux. Car comment fêter Noël sans trahir ses idéaux ? Anti-écolo, les cadeaux ? Eh bien, pas sûr, il suffit de faire les bons choix. Et voilà pourquoi nous vous proposons une émission Noël mode d'emploi.
C'est pas du vent sur RFI.
Chaque année, rien qu'en Europe, 80 millions de sapins sont achetés pour festoyer dans les foyers. Le Nordman, avec ses belles épines vertes qui ne tombent pas, est le préféré. Ces graines sont recueillies en Géorgie, dans le nord, à 220 km de Tbilissi, aux abords de la chaîne du Caucase. Chaque automne, dans les montagnes de cette région, les locaux cueillent les pommes de pin dont les graines seront envoyées en Europe pour alimenter le très lucratif marché des milliers de cultivateurs européens. Les dessous du sapin, c'est un reportage de Clémentine Métainier.
Le semencier danois travaille avec un intermédiaire géorgien qui recrute les cueilleurs et gère la logistique sur le terrain. Maraz Bardavelidze est instituteur. Pour compléter ses fins de mois, il a fait une centaine de kilomètres pour venir trier les rares pommes de pin ramassées.
Cette année, non, la récolte est vraiment mauvaise. On trouve quelques pommes de pin, mais juste dans cette zone. En bas, il n'y a presque rien.
Pourquoi c'est mauvais cette année ?
Il faut qu'il y ait un climat spécial au printemps pour que cette essence de sapin puisse pousser. Normalement, les pommes de pin poussent sans problème, mais apparemment, au printemps dernier, les températures étaient plus froides que d'habitude. Et donc forcément, la récolte a été mauvaise. D'ailleurs, ce n'est pas seulement ici, mais c'est dans toute la Géorgie.
Et pour vous, ce n'est pas un problème justement que des entreprises étrangères, seulement des entreprises étrangères viennent entre guillemets, exploiter aussi cette graine ?
Non, ça ne pose aucun problème ici. Si vous voulez, je peux vous donner mon opinion personnelle. Ici, en Géorgie, on ne fait pas de sapin de Noël. On n'utilise pas les graines pour les replanter pour qu'elles donnent des sapins de Noël. Peut-être il y a 15 ans, il y avait quelques entreprises géorgiennes sur ce marché, mais ça ne concernait pas les sapins Nordman. Elles choisissaient des essences qui poussent plus vite pour les couper plus vite et avoir des revenus plus rapidement. Vous savez, les entreprises européennes sont ici depuis plus de 50 ans. Elles viennent ici et ramènent les graines de Nordman dans leur pays. C'est normal pour nous. Pendant l'ère soviétique, le gouvernement venait et il payait les gens d'ici pour amasser des pommes de pin. C'était l'État qui allait ensuite apporter les graines à Tbilissi et après elles étaient envoyées à l'étranger.
Mais ça ne vous fait pas sourire justement qu'une telle économie soit faite dans votre pays pour ne servir qu'à orner les foyers français, à devenir juste un arbre dans une maison de manière culturelle et traditionnelle.
Mais encore une fois, ce ne sont pas des sapins qui sortent de chez nous, mais les graines. Ici, sur place, nous ne pouvons pas cultiver autant de graines et nous n'avons pas le marché pour les acheter de toute façon. Donc, tant que les graines sont vendues, c'est OK. C'est bien pour notre économie. Et les sapins, eux, ils restent dans la forêt. Et donc, plus les entreprises étrangères achètent de graines, plus nous avons de revenus dans la région. Ce qui est le plus important, selon moi, c'est que tout le processus soit fait en Géorgie. Cueillir les pommes de pin, récupérer leurs graines, les sécher, etc. C'est ça le plus important pour nous.
Oh,
La municipalité d'Ambrolahorry perçoit une taxe minime de 20 centimes d'euros sur chaque kilo de pommes de pin collectées par les entreprises quand celles-ci les déclarent. Quant à eux, les cueilleurs touchent un prix qui varie entre 20 et 80 centimes d'euros le kilo. Lors des bonnes récoltes, le salaire fait tenir une famille plusieurs mois dans cette région considérée comme l'une des plus pauvres du pays. Mais cette année, la mauvaise cueillette est une catastrophe pour la Ratcha et ses habitants. L'entreprise danoise Fairtrees a toutefois décidé de payer la dizaine de cueilleurs qui travaillent pour elle. Unique dans le business du sapin de Noël, Fairtrees applique les règles du commerce équitable sur la filière. Elle paye entre 5 et 7 fois plus le kilo de pommes de pin et investit dans la région pour construire, par exemple, des centres de santé. Pour Jana Pabonashvili, la partenaire géorgienne de Fairtrees dans la région, l'objectif est en premier lieu d'améliorer les conditions de vie de ces cueilleurs.
Pour moi, Fairtrees est un outil fantastique que je peux mettre à disposition de mes concitoyens. Étant moi-même géorgienne, j'ai été très fière quand des cueilleurs de pommes de pin se sont rebellés contre les entreprises qui les emploient quand ils ont appris quels étaient nos prix. Ils ont même fait une petite révolution. Sur la télé allemande, je me souviens, c'était il y a 3 ou 4 ans, une équipe allemande avait fait le déplacement. Les cueilleurs qui travaillaient pour les Allemands se sont réunis. Ils ont bloqué la forêt et ils ont dit « Nous ne laisserons personne collecter les pommes de pin ici, sauf Fairtrees ». Et un homme a dit « Nous voulons le même salaire que les cueilleurs qui travaillent pour Fairtrees ». J'étais tellement contente, parce que c'est ce que nous voulons. Ils doivent demander à leurs employeurs de les payer correctement. Parce que si nous, on peut payer ce prix, pourquoi pas les autres entreprises ? Quand tu gères une industrie qui brasse des millions d'euros grâce à la Géorgie et que tu entends les gens qui travaillent pour toi dire qu'ils sont des esclaves, et on parle bien de sapin de Noël, hein, est-ce que c'est normal ? Je ne pense pas. Noël et l'esclavage dans la même phrase ? C'est vraiment horrible. Mais il y a du positif, car avant, ils n'étaient même pas payés un lari. J'ai entendu dire que maintenant, ils étaient proches des 2 laris le kilo. C'est donc un grand progrès. Et je pense que c'est grâce à nous.
Une fois les pommes de pin rassemblées en sacs de 10 kilos, elles sont emmenées dans le seul entrepôt à Tbilissi pour en extraire les graines. C'est le point de départ ensuite pour le grand voyage en camion vers le Danemark pour 80% d'entre elles. Le pays est la plateforme relais pour la vente de graines ou de plants aux producteurs européens. Les graines de Nordman sont triées, lavées, conservées et achetées notamment par des pépiniéristes français. Alors, retour en France. Depuis la Géorgie, je viens d'arriver à Autun. Autun, qui est une commune de Saône-et-Loire, aux portes du Morvan. Alors, il y a des forêts magnifiques, là on est en plein automne. Et je viens d'arriver à la pépinière Naudet, une pépinière historique, familiale. Autour de moi, des sapins, à perte de vue, emballés, entassés, plantés, en forêt. L'idée étant de comprendre le point de chute de la graine de Nordman, ici, en France, à Autun. Bonjour Thomas Guillot.
Bonjour.
Comment on vous présente alors ?
Je suis le directeur des pépinières du groupe Naudet. Nous sommes pépiniéristes depuis 1876. La pépinière à Autun, elle, n'a que 30 ans. Il y avait une vieille exploitation agricole et on l'a transformée en pépinière.
Alors pourquoi est-ce que je suis tombée sur la pépinière Naudet quand je me suis intéressée au Nordman et au trajet de la graine, puisque de retour de Géorgie et du Caucase et de ses hauts sapins? Pourquoi je suis tombée sur vous?
Parce que nous sommes leaders en France, nous sommes l'un des plus gros producteurs de jeunes plants de Nordman. Sur le groupe Naudet, nous sommes également des producteurs de sapins de Noël. Et également leader en France, producteur de sapins de Noël.
Donc moi, je reviens de Géorgie, où j'ai suivi la récolte. Et ensuite, cette graine qui est ramassée, elle est envoyée au Danemark. Quel est le processus pour arriver jusqu'à chez vous?
On se réunit tous les ans et on essaye d'estimer la quantité de plants qu'il nous faudra dans 4 ans. Donc ça, c'est assez compliqué. Et par rapport à cette quantité estimée, hein, on essaye de sentir le marché, entre guillemets, et par rapport à ces quantités-là, on va acheter des lots de graines, notamment, oui, vous avez raison, aux Danois. Mais c'est très compliqué parce que, de toute façon, tous les lots de graines n'ont pas même le taux de germination. On est quand même un petit peu dans le flou. Hein. Bon, avec l'expérience, on sait à peu près ce que ça va donner, mais c'est suivant vraiment le marché. Mais c'est compliqué, encore une fois, parce que c'est des plants que je vais produire, moi, dans 4 ans.
D'accord. Et pourquoi vous vous fournissez chez les Danois?
C'est-à-dire que c'est un peu compliqué. On n'a pas, je pense que vous avez vu en Géorgie, nous, on n'a pas de contact direct avec les Géorgiens. Donc toutes les Nordman, donc ça vient de Géorgie, hein, c'est sur dans le Caucase. On n'a pas la filière que possèdent les Danois. Ils savent exactement dans quel type de peuplement ils peuvent récolter les meilleures graines.
Et alors vous, par exemple, une mauvaise récolte comme cette année? Alors là, pour le coup, très mauvaise, à cause d'un coup de froid, apparemment, au printemps. Quelles conséquences ça a sur vous, direct?
J'espère que ça ne va pas en avoir. Je pense que, je suis même presque sûr, qu'ils peuvent garder des graines sur plusieurs années. Donc, s'ils ont bien fait leur travail, et je le souhaite, ils ont pu anticiper ça. Enfin, on n'anticipe jamais vraiment trop, mais souvent, je pense qu'ils récoltent un petit peu plus que leurs besoins également, pour pouvoir en stocker pour les années difficiles comme cette année. Donc d'après moi, enfin, on n'a pas eu écho comme quoi on aura une pénurie de graines. Bien sûr, il ne faut pas que ça se reproduise plusieurs années de suite.
Vous achetez en termes de kilos ou de tonnes?
Ce sont des kilos. Moi, je dois semer à peu près un peu moins de 100 kilos. Mais pour vous donner une idée, nous, avec les quantités que nous achetons, on est autour de 100 euros, je crois, le kilo.
Et vous savez combien sont payés les Géorgiens qui montent aux arbres?
Non, pas du tout.
Ils sont payés 50 centimes le kilo, entre 50 centimes et 75 centimes.
Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Du grünst nicht nur zur Sommerzeit, nein, auch im Winter, wenn es schneit. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Oh, Tannenbaum, oh, Tannenbaum, du kannst mir sehr gefallen. Wie oft hat nicht zur Winterzeit ein Zweig von dir mich hoch erfreut. O Tannenbaum, o Tannenbaum, wie treu sind deine Blätter.
Alors, où sommes-nous?
Nous avons en face de nous une parcelle de 1,5 hectare.
Et c'est la parcelle d'avenir, on va dire, pour la pépinière, parce que c'est sur cette parcelle-là que j'ai semé toutes les graines de résineux pour ma production future. On essaie d'avoir sur un mètre carré à peu près 600, c'est la théorie, hein, mais c'est ce qu'on cherche à avoir, 600 semis au mètre carré.
Alors justement, c'est quoi un beau sapin de Noël quand on le fait grandir? Je vous entendais tout à l'heure parler à un client, enfin quelqu'un qui vous appelait pour vous acheter. Vous avez dit, nous, on ne fait que du sapin de Noël naturel. Alors qu'est-ce que ça veut dire?
Naturel, on insiste là-dessus parce que c'est vrai qu'on a pas mal de concurrence avec des sapins artificiels. Alors déjà, c'est tout ce qui est sapin plastique. Vous savez qu'il y a le côté écologique de l'affaire où beaucoup de gens maintenant trouvent ça bête de couper un sapin juste pour un mois. Ça casse son opinion. Mais après, c'est vrai qu'on avait aussi fait des études et on s'est rendu compte qu'un sapin artificiel, c'est pas spécialement plus écologique parce que c'est quoi? C'est du pétrole. Hein,
Mais ça veut dire pas d'utilisation de produits? Ou ça, c'est encore autre chose?
Non, alors, on en utilise quand même, faut pas se leurrer. On utilise notamment un petit peu d'engrais pour qu'il soit bien vert parce que les clients recherchent ça quand même, une belle couleur bien vert foncé et que le sapin soit pas malade. Parce que si on vend des sapins qui sont, on va dire, carencés, qui sont un petit peu chétifs, ils vont perdre tout de suite leurs aiguilles ou même ils ne seront pas jolis parce qu'ils n'auront pas un bel aspect.
Alors on regarde dessous, alors c'est vraiment tout petit, c'est des forêts de minuscules.
Alors ce sont des semis parce qu'ils sont issus directement de semis. Comme je vous disais tout à l'heure, on voit énormément de graines qui ont été avortées. Là, je suis en train de l'écraser et je vois, voilà, c'est tout pourri à l'intérieur. Okay. Donc cette graine, elle n'était pas viable. On l'a semée, mais elle n'est pas sortie de terre.
Les plants, ensuite, ils sont tous vendus ou vous en gardez pour les replanter et en faire des sapins et en vendre?
Ouais, alors, non, on n'a pas trop de soucis en ce moment pour commercialiser nos jeunes plants de Nordman. Après, on doit s'en garder aussi pour le groupe Nodé, parce que je vous disais, dans le groupe Nodé, on a aussi une production de sapins de Noël, et tout ce qui va nous rester, on le vend, mais on a beaucoup de clients qui sont producteurs de sapins de Noël, qui sont fidèles, et tous les ans, ils sont obligés aussi d'exploiter à blanc, on dit à blanc, c'est-à-dire tout couper, leur sapin pour pouvoir replanter derrière. La production de sapins de Noël, il faut vraiment avoir beaucoup de surface, de telle sorte à avoir tous les ans à peu près la même quantité, voire toujours un petit peu plus, mais au moins la même quantité de plants à proposer à ses clients. Donc eux aussi, ils sont obligés tous les ans de replanter certaines parcelles.
C'est donc auprès des pépiniéristes que les producteurs français de sapins de Noël achètent des plants, mais le Danemark, là encore, défie la concurrence en proposant une vente de plants de Nordman. Moins cher, explique Patrice Ball, producteur isérois de sapins, de père en fils. C'est donc ici les sapins de Noël. Bonjour monsieur Ball.
Bienvenue à la Côte-Saint-André, sur mon lieu de vie, mon lieu de vente de sapins de Noël.
Alors la Côte-Saint-André, pour nos auditeurs qui ne connaissent pas du tout, vous pouvez me situer un petit peu où on est ici?
En Isère, la Côte-Saint-André c'est en Isère, et c'est entre Lyon et Grenoble.
Est-ce que vous pouvez me décrire où on se situe là? Je vois un panneau, sapin de Noël, Patrice Ball, producteur, vente en gros et particulier. Vous êtes producteur de sapin de Noël?
Je suis producteur, donc là vous êtes sur mon lieu de vie et de vente, puisque c'est tout au même endroit où je stocke mes sapins. Et après, je repars les livraisons de chez moi, puisque les pépinières sont à 7-8 km. Donc, je stocke tous mes sapins chez moi. Et après, en décembre, je fais ma vente directe. Un peu avant, je fais les livraisons pour les supermarchés et les collectivités. Et après, j'attaque la vente directe à ma clientèle locale et un petit peu plus loin, pour certains.
En Isère, vous n'êtes pas si nombreux de producteurs de sapins de Noël. Vous êtes un, vous êtes seul ou il y a d'autres personnes?
Sur l'Isère même, on doit être deux... gros producteur, on va dire, moyen producteur. Après, il y a la Savoie qui est pas loin et la Haute-Loire qui est pas loin. Mais bon, moi, je reste un petit producteur et je fais de la vente locale. C'est pas une grosse production par rapport à ce qui se fait en France, quoi.
Alors moi, je suis allée en Géorgie, où j'ai découvert que les sapins de Noël venaient de là-bas, en tout cas les graines de Nordman. Vous saviez, vous, que ça venait de Géorgie, le Nordman?
Oui, bah, ils avaient déjà fait des reportages à la télé sur la cueillette des cônes. Après, il y en a peut-être dans d'autres régions du monde, je ne sais pas. Mais ça, c'est un autre métier.
En quoi vous êtes concerné, par exemple, par la Géorgie? Est-ce que vous êtes concerné par cette récolte qui, par exemple, cette année était très mauvaise? Ou pas du tout, ça ne vous impacte pas?
Ah ben non, parce que moi, j'achète les plants, ils ont déjà 5 ans par rapport à la graine. Donc, c'est des pépinières forestières qui font germer la graine qui vient de Géorgie et après qui la cultivent pendant 2 ans en semis plus 3 ans de repiquage et après c'est revendu à des producteurs de sapin de Noël. Moi je les repique, ils ont déjà 5 ans, ils font 20 cm de haut, 20-30 cm de haut en racines nues et à partir de là je les recultive pendant au minimum 5 ans pour faire un sapin de Noël.
Et pourquoi vous ne plantez pas la graine directement? Qu'est-ce qui va changer d'avoir le plant?
Ah ben c'est, la graine, elle est plantée en semis. C'est notre façon de... Il faut les faire germer. Chez nous, ça ne marche pas. On est trop bas en altitude. Et puis, c'est un autre métier. Il faut vraiment s'en occuper. C'est des petits semis. La graine, elle est microscopique, pratiquement.
Et c'est mieux en altitude?
Oui, il faut un climat pour faire pousser le sapin de Noël. Après, nous, on le replante dans les plaines où je suis un petit peu en altitude, mais pas tant que ça. C'est juste pour dire de faire de la pépinière et le faire pousser en pépinière.
Parce qu'effectivement, en Géorgie, le Nordman, il est haut. Hein. Effectivement, moi, je suis montée jusqu'à 2000 mètres d'altitude en forêt.
Oui, parce que le Nordman, c'est un sapin de grand froid qui pousse au nord et à l'ombre. Mais après, il a été importé de partout, de toute façon. Donc, il y a même des graines qui poussent ou en Belgique ou même en France. De toute façon, il y a des producteurs de graines, pas de graines, mais de semis en France, qui après font des plans, le plan forestier ou plan de sapin de Noël. Et c'est à partir de là que nous, on intervient. Quoi.
Mais il paraît que c'est très difficile de le faire pousser, ce sapin-là, le Nordman, en France. C'est pour ça que les graines viennent encore de Géorgie. Vous avez déjà entendu parler de ça ou...
Après, le problème, c'est qu'il faut des grands sapins, des grands Nordman, et qu'ils fassent des cônes. Donc chez nous, on est trop bas en altitude, je pense, pour qu'ils deviennent un sapin centenaire et qu'ils fassent des cônes, pour qu'ils se reproduisent. De toute façon, une graine, un cône et une graine, c'est un sapin qui se reproduit et qui repousse naturellement au sol. Donc après, il a été récolté pour en faire du commerce et le faire pousser ailleurs. Mais au départ, c'est ça la nature, quoi. Et chez nous, les Normans, c'était pas une essence bien naturelle, on va dire. Il n'y en avait pas... Maintenant, il y en a beaucoup à cause du sapin de Noël. Ben, tant mieux, parce que c'est un très bel arbre pour Noël. Mais l'origine, elle est d'ailleurs.
Pas d'ici. Alors, est-ce que vous pouvez m'expliquer, quand un consommateur vient ici, vous avez intérêt à vendre quel sapin? Est-ce que vous avez intérêt à en vendre un plus qu'un autre? Est-ce qu'il y a des prix différents entre chaque sapin?
Ah ben oui, chaque sapin a son prix, suivant la taille, ou si c'est un pot ou un Norman. Il y a autant de prix qu'il y a de références. J'ai mes tarifs d'affichés en vente directe. C'est ceux de l'année dernière, mais ils vont faire encore pour cette année. Il y a 40 prix différents, quoi.
Le Norman vaut plus cher?
Le Norman vaut plus cher. Il pousse plus doucement qu'un épicéa, donc automatiquement la production il revient un peu plus cher. Donc le Norman est un petit peu plus cher. Il y a tous les prix. Hein. Ça démarre quand même à 6 euros et ça peut aller jusqu'à 50 euros, même plus. Si vous voulez un sapin de 4 mètres, il sera un peu plus cher de toute façon.
Est-ce que vous savez ce que deviennent vos sapins de Noël après les fêtes?
Les sapins, tout ce qui est sapin en pot, donc avec la mode qui sont vivants, les gens les replantent. Ils les arrosent bien à la maison, c'est fait pour être planté dans son jardin. Donc on en vend de moins en moins parce que les propriétés deviennent un peu petites maintenant. Les gens n'ont pas des grands terrains. Et après, ça grandit, c'est un petit peu envahissant. Mais il y a encore quand même... Donc ceux-là, ils risquent rien, ils vont continuer de vivre. Et après, tous les sapins coupés. Mais le Norman, comme il ne perd pas ses épines, il y a des gens qui le gardent 5-6 semaines à la maison. Et après, il finit en déchetterie.
Okay.
Donc il est recyclé par rapport à la filière déchetterie végétaux. Mmh. Végétaux, quoi.
On recycle le sapin.
Oui. Par chez nous, bien sûr. Ils sont de partout. Hein. De toute façon, ils repassent dans le système des végétaux. Suivant les régions, ils le recyclent en conséquence, quoi. Mais en général, c'est déchetterie et après, il est broyé avec les autres végétaux du printemps, quoi.
Est-ce que vous pouvez m'expliquer un peu ce que fait votre collègue, là?
Eh bien là, on va terminer la mise en pot des derniers sapins que j'ai arrachés, là. Parce que la pluie a bien aidé l'arrachage, parce que jusqu'à maintenant, il faisait très très sec. Donc il n'y a plus pour pouvoir les arracher, puisqu'il faut que les terres soient mouillées pour pouvoir les motter, faire la motte. Et là, on est en train de finir de mettre en pot. On remet un plastique autour pour la conservation. Et comme ça, je peux les stocker et ils seront prêts à vendre.
Merry Christmas.
Vous l'avez compris, plus les graines s'éloignent de la Géorgie, plus les conséquences négatives d'une maigre récolte s'amenuisent. Les variations des quantités récoltées en Géorgie auront en effet peu de conséquences pour le reste de la filière. Pépiniéristes et cultivateurs ont une certaine flexibilité dans la mise sur le marché des semis et des sapins sur plusieurs années. Mais le consommateur ne se rendra compte de rien, il continuera à acheter son sapin de Noël Nordman sans connaître le long périple de sa graine.
Where is Santa? And he's there. tell me why is it always this way? Where is Rudolph? Where is Blitzen, baby?
Reportage de Clémentine Métainier réalisé par François Porcheron.
Des questions, des témoignages, des idées. Écrivez-nous à c'estpasduvent@rfi.fr.
Et autour du sapin, on met quoi? Eh bien les cadeaux, bien sûr. Mais que peut-on offrir sans trahir ses idéaux écolos? On en parle avec nos deux invités. Sophie Chevalier, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes anthropologue et coéditrice de l'ouvrage « Les cadeaux, à quel prix ?» Et Marine Foulon, bonjour.
Bonjour.
Vous êtes chargée de communication chez Zero Waste France, en charge du défi « Rien de neuf ». En quoi consiste ce défi?
Eh ben, le concept est simple, c'est essayer d'acheter le moins d'objets neufs possible pendant un an.
Rien acheter pendant un an. Alors, comment est-ce qu'on fait quand arrive Noël ?
Alors, j'ai envie de dire que déjà, la première chose, c'est de prendre du recul, puisqu'en fait, au moment des fêtes, on a énormément d'injonctions à acheter des cadeaux, il y a énormément de publicité, de marketing, et on a un peu l'impression qu'on est obligé de passer par cette étape, et déjà de faire un petit pas de côté et de se dire, mais quel est l'intérêt de ces fêtes et quel est l'intérêt de ces cadeaux, et de se dire qu'en fait, peut-être que le plus important à ce moment-là, c'est de faire plaisir à ses proches et peut-être de répondre à des besoins qu'ils peuvent avoir en termes d'objets ou de cadeaux immatériels. Donc ça, c'est un peu la première étape déjà de se questionner et c'est une étape très importante quand on commence à réfléchir à l'impact de sa consommation. Et après, quand voilà, on se dit qu'on a quand même envie de mettre quelque chose sous le sapin, on a plusieurs options en fait si on veut éviter l'impact sur l'environnement que peuvent avoir notamment les objets neufs. Et on peut se tourner soit vers le marché de l'occasion, donc ça peut être des boutiques comme des ressourceries ou des boutiques Emmaüs, mais ça peut être aussi récupérer un objet qu'on a déjà chez soi et qu'on a envie de donner. Par exemple, le livre qu'on a préféré lire dans l'année, on peut le partager à une personne qu'on va voir pendant les fêtes. Et ça peut être aussi récupéré auprès d'autres personnes, donc soit grâce à des sites qui mettent en ligne les particuliers comme Le Bon Coin ou même certains groupes Facebook. Alors, donc ça, c'est la première option aussi.
Les vêtements qui s'échangent, ça fait un petit moment qu'on en voit. Cette année, je trouve qu'on voit beaucoup d'applications ou de solutions pour des jouets recyclés. C'est assez nouveau, ça, non ?
En fait, il y a déjà des acteurs qui sont positionnés sur le jouet, notamment Rejouer, qui ont des boutiques uniquement dans Paris. Et il y a aussi effectivement des gens qui remettent de plus en plus en circulation leurs jouets, soit parce que de toute façon, en général, ils ont un usage assez éphémère, soit parce qu'en fait, justement, les gens achètent des jouets, notamment pour les fêtes, sans réfléchir et qui sont pas du tout utilisés. Donc là, encore une fois, ça va être plutôt entre particuliers et il y a aussi certaines plateformes en ligne qui sont spécialisées sur l'occasion pour les enfants et bébés comme Le Petit Marché ou même Ocaseo qui propose plutôt des jeux de société.
Et puis il y a les cadeaux faits maison, hein, que ce soit les cosmétiques ou même pourquoi pas des petits gâteaux, des petites sucreries, ça peut être aussi une solution.
Oui, effectivement, on peut soit faire des choses à manger soi-même, donc ça peut être faire des confitures, des petits cookies ou sablés, ou même du caramel au beurre salé, enfin des choses qui sont aussi bien meilleures quand elles sont faites maison. Et puis ça peut être aussi offrir des choses plus côté bien-être, donc d'un baume à lèvres, des sels de bain, des crèmes pour le corps, le visage, de l'après-rasage. Donc ça, maintenant, en tapant une recherche sur un moteur de recherche, en fait, on a plein de sites qui répertorient des recettes, des tutos. Donc, en fait, n'importe qui peut s'y mettre sans avoir forcément de connaissances ou de compétences particulières. Et puis ensuite, il y a aussi tout ce qui peut être décoration, donc soit reprendre des choses qu'on a déjà chez soi et les personnaliser un peu, ou alors partir de zéro et faire soi-même, par exemple, des bougies, des cadres, mettre des photos. Donc, ça permet aussi de faire des cadeaux très personnalisé. Et puis enfin, ça peut être aussi faire des vêtements, donc tricoter des bonnets, des chaussettes ou des vêtements pour les bébés. Voilà. Et là, encore une fois, il y a un peu pour tous les niveaux, quoi, on va dire, des tutos sur Internet et des livres aussi qui permettent de découvrir ces compétences.
Oui, parce que quoi qu'il en soit, Sophie Chevalier, c'est vrai que c'est difficile de ne pas offrir de cadeaux, hein, parce que les cadeaux représentent plus que simplement des échanges de biens dans nos sociétés.
Bah, disons oui, en tout cas, il y a une injonction, un échange de dons, ce qu'on appelle un système d'échange, hein, qui a été étudié, en tout cas au départ, par quelqu'un qui s'appelle Marcel Mauss, qui est un des fondateurs des sciences sociales en France, ce qui montre en fait que ces échanges de dons, ce qu'il appelle des échanges de dons, qu'on qualifierait de cadeaux, il dit rien sur le contenu, hein, de ce qui est échangé. Donc ça peut correspondre tout à fait au discours de votre autre interlocutrice, parce qu'il dit pas sur le contenu de ce qui est échangé. Par contre, ce qu'il raconte, c'est qu'il dit qu'en fait, ces échanges, c'est à la base du lien social et que ça implique des obligations. Donc, il y a trois moments dans les échanges de cadeaux, c'est-à-dire donner, recevoir, c'est-à-dire accepter le cadeau, et puis rendre. Donc, c'est bien ce qui se passe à Noël. On donne des cadeaux en général à des gens avec lesquels on entretient déjà des liens, souvent des liens de parenté. Et puis, on accepte de recevoir le cadeau, on essaye de faire bonne figure, même si ça ne nous plaît pas. On apprend à s'exclamer quand on déballe, même si voilà. On apprend ça déjà aux enfants quand il y a des goûters d'anniversaire, quand ils échangent dans des anniversaires des cadeaux, on les apprend à rester polis, même si ça ne leur plaît pas du tout, si c'est le 10e exemplaire du même bouquin qu'ils ont reçu. Donc en fait, cette injonction-là, c'est difficile d'y échapper. Si on y échappe, il faut qu'on ait un accord avec les autres personnes avec qui on est dans une relation d'échange. Si vous allez simplement à la fête de Noël de la famille et puis vous recevez des cadeaux, puis vous dites « Ah ben moi, cette année, j'ai décidé que je ne rends rien parce que ce n'est pas très écologique, donc j'ai décidé de ne pas offrir de cadeaux, etc. » Votre position n'est pas très confortable. Donc en fait, il y a quand même une obligation de rendre, mais elle peut prendre des formes diverses, comme l'a décrite votre interlocutrice. Mais ce qui est stressant, et j'aimerais le redire pour Noël, c'est que c'est un échange généralisé avec simultanéité du rendu. Parce que quand vous offrez quelque chose pour un anniversaire, vous avez quand même quelques mois pour réfléchir à ce que vous allez rendre. Mais là, ce n'est pas possible. Il faut imaginer tout de suite le don et le contre-don. Et c'est un peu compliqué.
C'est-à-dire se dire, bon, alors lui, il a un peu d'argent, si je lui offre un cadeau pas cher, je vais passer pour un nulos, quoi. C'est ça ce que vous dites?
Oui, il y a quand même une évaluation. Alors, c'est un vrai travail, hein, d'offrir un cadeau. Il faut à la fois évaluer ce qui va plaire à l'autre, mais en même temps, ça doit lui plaire un petit peu, parce que offrir des trucs qu'on trouve vraiment horribles, c'est pas super, quoi. Donc voilà, ça doit nous plaire un peu, on doit essayer d'imaginer ce qui va plaire à la personne. On va aussi mettre une certaine valeur à ce cadeau, ça peut être une valeur de fabrication, une valeur monétaire, par rapport à ce que la personne va nous rendre, mais aussi peut-être par rapport à la valeur qu'on accorde à la relation qu'on a avec cette personne. Donc c'est un calcul, entre guillemets, pas seulement un calcul monétaire, assez compliqué. Et effectivement, ça peut provoquer des relations d'inégalité, c'est-à-dire recevoir un cadeau très coûteux alors qu'on rend un petit truc, ça c'est pas très agréable, c'est pas très agréable.
Et alors, c'est vrai que les cadeaux jouent, c'est ce que vous décrivez, un peu le rôle de thermomètre dans les relations affectives. Et il y a ce qu'on appelle cette notion de cadeau chaud et de cadeau froid. C'est-à-dire, en gros, on évalue ce que l'on reçoit plus... Enfin, peu importe le prix. Non, la plupart du temps, ce n'est pas tellement le prix qui compte. C'est plutôt l'effort que la personne a dû fournir pour nous offrir ce cadeau. C'est-à-dire quelque chose qui ne vaut pas beaucoup d'argent peut avoir plus de valeur parce que la personne y a mis du sien, comme on dit. Et ça, c'est un peu un cadeau chaud, quoi.
Oui, c'est un vrai travail, comme j'ai dit, de faire des cadeaux. Et ça permet, ces échanges de cadeaux permettent d'une certaine manière d'évaluer la place de chacun dans son entourage, sa propre place et puis la place qu'on accorde aux gens qui sont autour de vous.
Alors du coup, Marine Foulon, il faut quand même réussir à convaincre l'entourage d'accepter le cadeau immatériel ou symbolique ou fabriqué par soi-même avec ce que ça peut impliquer, hein, c'est plus ou moins réussi. Et puis il faut essayer de ne pas trop passer pour un radin, tout ça, ça demande beaucoup de pédagogie.
Oui, effectivement, et c'est pour ça que notre association Zero Waste France, elle a proposé une petite carte à joindre avec les cadeaux. En gros, on fait parler le cadeau, on dit « je suis un cadeau un peu spécial parce que je ne consomme pas de ressources naturelles, je ne participe pas à la surconsommation et j'ai été choisie avec beaucoup d'amour et de temps. » Donc l'idée avec une seule petite carte, c'est de décentrer un peu la valeur du cadeau de la valeur monétaire à une valeur plutôt liée effectivement au temps passé à trouver, au temps passé à avoir l'idée et au temps passé peut-être à fabriquer ou voilà, à faire soi-même. Donc l'idée, c'est plutôt de dire en quoi ce cadeau il contribue aussi à autre chose que simplement à faire plaisir à la personne et du coup à l'intégrer aussi dans ce processus, dans cette démarche écologique.
Et Sophie Chevalier, est-ce qu'on peut offrir du temps simplement aux gens? Est-ce que ça suffit, même si ce n'est pas matériel? Je ne sais pas, par exemple, offrir une journée entière à sa tante, à sa grand-mère ou à son papa en disant « je vais passer une journée rien qu'avec toi, on ira faire des choses ensemble », ça c'est une forme de cadeau, et ce n'est pas matériel, ça n'a pas d'impact. Enfin, ça dépend ce qu'on fait, mais...
Mais je pense que de toute façon, l'idée d'offrir des nouveaux objets, l'idée de marchandiser complètement les échanges au moment de Noël, c'est quand même quelque chose qui est relativement récent. Je pense que ça date de l'événement de la consommation de masse. Avant, les gens ne faisaient pas circuler autant d'objets entre eux. Ça pouvait être un repas pris ensemble, ça pouvait être un petit quelque chose. C'était d'ailleurs aussi beaucoup très centré, ça l'est toujours, autour des enfants, hein, puisque Noël, c'est quand même la célébration de la famille autour des enfants. Donc, c'est surtout eux qui sont un peu destinataires de toutes ces marchandises.
Marine Foulon ?
Oui, je suis tout à fait d'accord. C'est aussi nous ce qu'on propose, d'offrir du temps. Et encore une fois, c'est sortir de cette idée qu'il faille absolument avoir quelque chose de matériel. Offrir du temps, ça peut être aussi offrir un moment culturel, une expo, un concert, une pièce de théâtre, un film au cinéma. Et ce qui est pratique, c'est que ça permet aussi parfois de se faire plaisir à soi-même parce qu'on peut s'offrir la deuxième place en complément. Donc oui, nous, c'est aussi quelque chose qu'on aime bien proposer.
Bon, c'est bon, vous êtes au point toutes les deux. Vous avez fini vos listes de cadeaux, Sophie Chevalier ?
Presque. Bon, j'ai mon petit sapin en pot là, il faut que je le rentre avant qu'il ait un choc thermique entre le balcon et l'intérieur. Donc je vais lui faire passer un petit sas sur mon palier là, avant de le mettre à l'intérieur. J'ai peur qu'il perde toutes ses aiguilles d'un coup.
Et vous, Marine Foulon, vous avez un sapin ?
Non, moi j'ai pas de sapin, mais je continue encore à réfléchir à mes cadeaux. L'idée aussi, c'est de pas forcément faire un cadeau à tout le monde, mais soit de faire un cadeau qui peut servir à toute la famille, ou soit voir ensemble qui offre quoi à qui, et ça permet aussi parfois de limiter l'impact des cadeaux.
Allez, moi, je vais vous donner une ruse. Dans ma famille, on est assez nombreux, donc on se tire au sort chaque année, ce qui fait que ça limite aussi le nombre de cadeaux. Voilà, chacun fait ce qu'il peut. Merci beaucoup à toutes les deux d'avoir participé à cette émission. Sophie Chevalier, je rappelle le titre de votre livre, « Les cadeaux, à quel prix ?» C'est édité chez Armand Collin et Marine Foulon. On peut vous lire sur le site riendeneuf.org.
Merci à vous.
Merci à vous.
Vous écoutez C'est pas du vent sur RFI et vous avez bien raison. Une autre tradition, chaque année à Rennes, ville de l'ouest de la France, le premier week-end du mois de décembre est consacré aux musiques du monde. Le Festival des Transmusicales, 41e édition, a donc réuni sur 5 jours 55 000 spectateurs venus découvrir 85 groupes d'une cinquantaine de pays. Et dans ce lot d'artistes, des militants, des musiciens actifs, pour dénoncer, comme le Burkinabé Art Melody, qui se dit rappeur la nuit et agriculteur le jour, l'importance de produire et de consommer local. Rencontre avec ce musicien qui a fait résonner la scène des trans musicales avec Guillaume Thibault.
Sur la première à tout moi, il parle des crocs, sous le rouge ou derrière le na nyeste de pam wendi tongonzo mandere pkwes ikatastasu.
Moi c'est Konkubo Mamadou alias Art Melody du Burkina Faso, rappeur et agriculteur.
Rappeur et agriculteur ou agriculteur et rappeur?
En fait c'est musicien la nuit et agriculteur le jour, et c'est comme ça chaque jour.
À quel moment vous avez décidé d'aller dans les champs, d'apprendre à travailler les champs?
C'est le moment où j'ai réalisé que, en fait, avec ma musique, si elle devait être un miroir pour moi, et je n'oserais pas trop me regarder dedans. Parce que j'ai longtemps fustigé le système, mais moi-même, je ne fais pas mieux que le système. Parce qu'après la musique, la vie ne s'arrête pas là. On peut faire la musique, mais être producteur à côté de ses propres légumes. Comme disait un journaliste, l'impérialisme, c'est pas ce que vous voyez. L'impérialisme, c'est dans nos assiettes. C'est ce qu'on consomme. C'est les grains de riz qui ne viennent pas de chez nous ou qui sont mal produits. C'est ça l'impérialisme. Donc, au bout de 10 ans, j'ai vu que je faisais des chansons pour demander à la jeunesse de rester en Afrique et labourer la terre, produire des récoltes, des bonnes récoltes, pour que nous puissions vivre à notre faim. Mais moi-même, derrière, je ne faisais rien. Donc j'ai dit, ah non, là, c'est le moment de prendre la daba et d'aller au champ et de planter des arbres pour réduire, pour lever le pied sur l'accélérateur en termes de changement climatique, puisqu'il est réel, il est réel chez nous. Hein. Et donc, j'ai fait des arbres.
Qu'est-ce que tu chantais avant d'aller au champ, justement? Si on prend un petit exemple de chanson, ouais, qui racontait cette volonté de faire, mais sans faire.
Sacre bail zingu konzoye, song de matin kochi konzoye, song de matin kochi konzoye. Que de rester, j'accepte de rester chez moi, aider ma mère, mon père, pour qu'on laboure la terre, pour qu'il y ait suffisamment de nourriture pour les gens. La chanson s'appelle Bayir Noma. Bayir Noma, ça veut dire il n'y a pas mieux que chez soi. Et donc, au bout de 10 ans, je vois que malgré tout, je voyage quand même. Et puis je fais de la musique, mais quand je retourne chez moi, je suis assis, je ne travaille pas la terre. Donc il y a un truc qui ne va pas, quoi.
Vous êtes né en quelle année?
Moi, je suis né en 1979, février, 22 février 1979.
Donc vous avez grandi petit avec Thomas Sankara. Cette lutte que vous mettez en avant, on parlait de l'impérialisme tout de suite, la lutte contre l'impérialisme, il y a du sankarisme au fond de vous?
Non, je préfère pas le dire parce que le sankarisme, ça risque d'être des dogmes et des fantasmes maintenant, quoi, de nos jours. Donc je préfère dire que c'est une lutte, c'est un combat, et on n'a même pas besoin qu'il y ait Sankara pour nous dire que c'est ça la voie. Mais lui, il a eu le culot de le dire. On dit respect à lui. Et j'aime pas trop prononcer son nom parce que moi, je ne vaux même pas son ombre. Donc un monsieur comme ça, il faut éviter de chanter son nom parce que lui il est vrai, quoi.
Et justement, par contre, vous reprenez ces thématiques, justement, dans produire local, le fameux façon d'Enfani, si on prend l'exemple du tissu, faire local, manger local, vivre local.
Oui, j'ai dit ça, mais en fait, je ne veux pas être prétentieux là-dessus. En fait, je veux que ça reste juste une action, mais moins la parole et l'attitude. Parce que la parole est une arme, mais les actions sont des munitions.
Et travailler la terre, justement, rend humble, vous a appris ou vous a rendu humble avec le temps?
À réaliser que je n'étais pas mieux qu'un paysan. Parce que l'agriculture et l'élevage est un domaine qui a reçu une sale peinture sur son visage. Donc c'est quand tu as échoué que tu es paysan. En fait, ça reste à croire que dans tous les pays du monde, c'est les pauvres qui sont paysans. Mais non! C'est eux qui ont compris la vie, quoi. Maintenant, je commence à travailler avec une association de femmes. Elles foutent la branlée à des hommes, quoi. Donc, on avance. Si ça ne marche pas avec les hommes, donnons la parole à la femme. Et ça, c'est encore un autre combat de façon inconsciente même qui est fait, quoi.
Est-ce qu'on peut avoir une autre chanson qui raconte justement ce quotidien?
Ton wanan tu mame, ton kawana wadavie, ton kamuta muta we, ton yatuma tuma, ton wanan tu mame, ton kawana yalye, ton kamuta muta de, ton yatuma tuma, ton wanan tu mame, ton kawana wadavie, ton kamuta muta we, ton yatuma tuma, ton wanan tu mame, ton kawana yalye, ton kawana, ton kawana, ton kawana.
Yaman. Ça veut dire la génération fainéante et la génération calamiteuse. Et moi, je ne viens pas de cette génération. Moi, je viens de la génération travailleur, la génération porteur d'espoir.
C'est un message très clair adressé à une jeunesse qui voudrait partir ou ne rien faire.
Ouais.
Ou qui considère que tout est acquis.
Tout est acquis, alors que non. Alors que rien n'est acquis sur cette terre. Tout, la liberté, elle ne se donne pas, elle s'arrache.
Est-ce que vous allez jusqu'au bout du raisonnement en disant « Moi, je veux aussi avoir des champs propres, avec le moins de produits possible, parce qu'il y a un respect absolu qu'il faut avoir du terrain, du terroir ?»
C'est ça aussi le premier élément. C'est que voilà, sur les sites, c'est zéro pesticide. On fait le maximum pour éviter trop de plastique. Et puis on utilise le vieux système de nos ancêtres pour nourrir la terre. Par exemple, un système qui consiste à creuser la terre en des demi-lunes, disposer de telle sorte que quand il y a un ruissellement, que ça se desserve l'une sur l'autre. Et ensuite, on y met du fumier et on paille. Et voilà, ça peut te prendre 15 ans. Tu n'as pas besoin de quoi que ce soit. Mais ça prend un travail de monstre. Quand je faisais les villageois à côté, là, ils m'ont pris pour un fou. Mais aujourd'hui, à chaque fois, quand ils passent, ils disent « Mais toi, ton maïs, là, comment est-ce que tu fais? Comment est-ce que tu mets des produits ?» Je dis « Rien, rien. » Ça fait 4 ans aujourd'hui, là, c'est toujours… Si ce n'est pas du maïs, je ne peux rien mettre là-bas même. Si je mets autre chose, ça va grandir tellement que c'est la terre est redevenue. Et je change la terre petit à petit. C'est du boulot, hein. Mais sur 10 ans, c'est à long terme le truc.
Comme disait un ancien de RFI, chaque jour est une vie quand on est dans les champs.
Oui, chaque jour est une vie quand on est dans les champs. Et c'est quel champ? Les champs que je cantonne ou mon champ? Mais de toute façon, les deux, c'est à la fois quoi. Par moment, c'est au champ et le casque dans les oreilles et c'est dans les champs.
Le chant est source d'inspiration et la musique inspire les chants.
Ouais.
Merci beaucoup.
Merci, merci Yo.
Génération Muta Muta du dernier album de Art Melody. Merci à François Porcheron pour la réalisation de cette émission et à vous pour votre fidélité. N'oubliez pas, il y a une vie après l'émission. Vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux ou nous écrire à c'estpasduvent@rfi.fr. Prenez soin de vous et des vôtres. On se retrouve la semaine prochaine, même planète, même heure.